Bienvenue sur le podcast de Moodstep. Nous allons ensemble parler d'intelligence managériale. Alors, qu'est-ce que je mets sous ce titre d'intelligence managériale ? Tout ce qui touche au savoir-être, à la connaissance de soi et qu'on peut utiliser pour améliorer notre cohésion d'équipe et notre travailler ensemble. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Gabriel Chelala. C'est un entrepreneur, chef d'entreprise, mais aussi un aventurier qui a fait des choses assez audacieuse dans sa vie. Avant de retrouver Jean-Gabriel, je voulais dire un grand merci à Julien qui a laissé un commentaire sur la page iTunes du podcast. Merci Julien, c'est hyper encourageant et j'invite tout le monde à faire pareil parce que ça améliore la visibilité du podcast. On y va, on le retrouve et on va parler d'entrepreneuriat et d'aventure. Jean-Gabriel Chelala tout de suite. Bonjour Jean-Gabriel Chelala.
C'est ça.
Alors, Jean-Gabriel, avant qu'on commence, tu es chef d'entreprise et puis tu as une vie vraiment d'aventure. Est-ce que tu pourrais justement nous parler d'un peu qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours ?
Eh bien, écoute, bonjour Johanna. Alors moi, enfant, j'ai grandi au Liban. Quand on est arrivé en France, j'avais 10 ans. J'ai vécu mon adolescence avec beaucoup de projets. Je faisais partie des scouts, donc tout ce qui était aventure, cabane dans les bois, ça a bercé une bonne partie de mon adolescence. Et puis après, j'ai fait une école d'ingénieur. Je me suis mis à monter des expéditions et des projets sportifs et des projets d'aventure. Et puis ça ne m'a pas quitté. Et puis finalement, quand on entreprend un projet d'aventure, bah, y a avant tout le désir d'entreprendre. Et j'ai pris autant de plaisir, si ce n'est plus des fois, à monter des projets qu'à les réaliser. Je pense que c'est comme ça que petit à petit, j'en suis arrivé à devenir chef d'entreprise et à garder cette dynamique d'entreprise.
Qu'est-ce que fait ton entreprise ? Qu'est-ce que tu fais ? Quel âge elle a ? Combien vous êtes ? Une petite fiche.
En fait, la société, je l'ai créée en 2009. On est aujourd'hui une trentaine de collaborateurs. Et nos métiers, c'est avant tout du conseil et de la conception. Donc, on a plusieurs branches. On a une partie conception sur toute la partie énergie des bâtiments. On a une partie aménagement urbain, urbanisme, environnement. Et puis, on a une partie sport.
C'est voilà. Étonnant.
Oui.
Comment tu concilies le sport et l'urbanisme ?
Eh bien, en fait, on a un cabinet qui conseille les collectivités sur l'aménagement des équipements sportifs et des centres aquatiques. Donc, nos métiers consistent à essayer de réfléchir un équipement sportif dans une implantation territoriale. Faire en sorte, si tu veux, que les équipements servent la collectivité et ne soient pas uniquement, qu'il n'ait pas uniquement un rôle d'exploitation. Voilà.
D'accord. Alors, j'aimerais, ce qui m'intéresse dans ton parcours, on n'a pas vraiment de sujet fixe là, mais ce qui m'intéresse, parce que donc tu as fait on s'est rencontré à TEDx Rennes.
Oui.
Tu as fait un talk à TEDx et je l'ai réécouté juste avant l'interview. Alors, j'étais. Donc, je l'ai réécouté juste avant l'interview et bien sûr, c'est venu me titiller, moi, parce que je me dis, j'aimerais bien oser avoir un grand défi sportif comme ça, aller escalader une montagne ou aller faire un trek très long, faire le tour du golfe du Morbihan à pied. Et je me pose des questions sur la motivation. Ton message principal, c'est aussi que rien n'est impossible. Mais est-ce que c'est pas lié à toi et à ta personnalité et à ce que tu es, ce que tu as vécu, qui fait que tu peux te lancer dans des défis comme ça? Ou est-ce que tu penses que c'est faisable par nous tous? Et comment on entretient cette motivation à aller au bout, quoi?
Je pense, si tu veux, que tout le monde peut le faire. Si tu veux... Moi, quelque part, je ne suis pas né comme ça. Je me suis fait violence aussi pour réussir à avoir de la motivation et aller au bout de ce que j'avais envie d'entreprendre. Et ce n'est pas parce que j'ai réussi à faire des projets par le passé qu'aujourd'hui, j'ai besoin de moins d'énergie pour garder un même niveau de motivation. En fait, même aujourd'hui, ça reste difficile pour moi Et c'est pour ça que, si tu veux, je pense que c'est à la portée de tous, mais peu réussissent à le faire. Pas parce que peu en sont capables, mais parce que peu réussissent à franchir le pas. Peu s'en croient capables de le faire.
Parce qu'il faut resituer. Tu t'es lancé des défis quand même qui sont impressionnants. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ?
Eh bien, quand j'étais étudiant, je me suis mis à faire de l'alpinisme. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais vraiment un niveau proche du zéro en matière de randonnée et de trekking. Mais voilà, j'avais envie d'aller un peu plus haut, un peu plus loin. Donc, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, j'ai fait l'ascension du Kilimandjaro, puis j'ai fait deux, trois autres sommets en Argentine et en Inde. Et puis après, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, de rencontrer des populations. Donc, j'ai monté un tour du monde pour étudier l'habitat traditionnel et voir finalement comment les gens vivaient au sein de leur maison.
Donc là, ça réintègre ton travail, en fait. C'est marrant.
Oui, bah oui, parce que je faisais des études dans une école d'ingénieurs bâtiment. Et alors, voilà, au départ, j'avais envie d'avoir... Disons que les études dans le bâtiment m'ont orienté vers l'habitat traditionnel. Et petit à petit, je me suis dit, mais... Dans le fond, s'il y a un lien planétaire, c'est bien l'habitat, parce que c'est finalement notre seul refuge. Et voir comment les gens vivent et comment quelles sont leurs croyances liées à l'habitat, ça pouvait être intéressant. Et puis, pour la petite anecdote, j'ai transformé ce tour du monde en travail de fin d'études. Donc, ça a bouclé en plus les trois. En fait... Le truc, c'est que je ne savais pas si je voulais prendre une année sabbatique pour faire ça, enfin une année de césure dans mes études, ou faire ça après mes études. Et je me suis dit, si je l'intégrais comme un stage, alors là, ça serait top, parce que ça réglerait la question du quand, tu vois.
Et tu as réussi à les convaincre ?
Bah oui, parce que c'était un travail
de
recherche.
C'est mon stage de fin d'études.
Exact. Bah oui, c'était un travail de recherche dans le bâtiment. Donc c'était super. Au contraire, j'ai eu une super note en plus. Donc non, c'était génial. Et puis après, j'ai commencé à travailler, j'ai eu envie de refaire un projet. Donc là, j'ai décidé de faire un tour du monde à la force humaine. Donc ça veut dire pas de moteur et pas de voile. Concrètement, sur Terre, j'étais à vélo. Et puis pour traverser l'Atlantique, j'ai utilisé un pédalo de compète, mais un pédalo quand même. Donc j'avais pas de moteur, j'avais pas de voile.
Mais ça, c'est complètement fou, ça.
Ouais,
mais
c'était...
traverser un océan avec un pédalo, mais non, attends, Jean-Gabriel, s'il te plaît.
c'est vrai qu'on le dit, ça fait ridicule.
Mais ta famille et tes proches devaient être horrifiés, quoi.
Ouais, la première fois que j'en ai parlé, peu de gens m'ont pris au sérieux. Et même
mais
si
non, mais
ceux qui me prenaient au sérieux
c'est même dangereux, on pourrait dire.
C'est évidemment dangereux, mais c'est dangereux comme plein d'autres choses. Finalement, le danger se prépare, il ne peut pas s'anticiper, mais tu peux aussi faire en sorte de pallier à un certain nombre de choses, quoi. Mais la peur n'évite pas le danger, ça c'est sûr. Par contre, une bonne préparation t'aide quand même à la réduire.
J'aimerais bien comprendre ce qui te motive à pousser le curseur aussi loin.
La peur de l'ennui, peut-être. Non, mais je ne sais pas, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'essayer des choses, j'ai envie d'avoir une vie passionnante. Voilà.
Ouais. Donc c'est l'intensité.
Ouais, l'intensité, ouais, l'adrénaline. J'ai envie d'avoir une vie passionnante et puis j'ai envie de le partager pour aussi donner envie aux gens de vivre des choses passionnantes de leur côté, quoi. Je pense qu'une vie passionnante ne passe pas forcément par traverser l'Atlantique en pédalo, loin de là. Mais voilà, j'ai voulu le faire, je l'ai fait. Ça ne rend pas les choses plus faciles aujourd'hui. Encore une fois, j'ai 10 projets par jour en tête. Et, mais malgré tout, même aujourd'hui, faire preuve de motivation pour entreprendre un projet, c'est pas si facile. Même avec tout ce que j'ai pu faire, c'est pas si facile, quoi.
Mais parce que moi, je me pose cette question sur la motivation. Je vois bien, j'ai changé de cadre de vie et je me rends compte qu'il faut que j'aille puiser sur... comme toi, j'ai plein de projets et je me dis, ouais, je vais faire ça. Et il y a des projets sur lesquels c'est extrêmement facile de trouver la motivation et d'autres pas. Et je me demande, et peut-être que t'as identifié des choses avec tout ce que tu as fait, si ça dépend pas de ce qui nous enclenche. Par exemple, si moi je sais qu'être en relation avec les autres, va alimenter ma motivation naturellement. Si je suis sur un projet qui demande de la persévérance, mais juste pour moi-même, ça va être très compliqué. Est-ce que tu as identifié des choses comme ça sur tes sources de motivation?
En fait, dans tous les projets que j'ai envie d'entreprendre, eh ben, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai un peu plus de facilité à être motivé par un sujet plutôt qu'un autre. Alors, moi, je me suis aperçu que c'est lié à l'envie, tout simplement. Il y a des
Bah oui.
choses, j'ai très envie de les faire, mais je trouve pas assez de motivation. Et ben, c'est peut-être que dans le fond, j'ai pas si envie que ça, quoi. Et il y en a d'autres où d'abord la motivation est plus facile à trouver, mais c'est surtout que ça devient, ça te bouffe l'esprit du matin au soir. Et là, comme par hasard, t'as moins besoin d'énergie pour être motivé, mais je pense que c'est parce qu'on en a plus envie. Donc, je sais que une des questions maintenant que j'essaye d'avoir, c'est de quoi j'ai réellement envie? Et non pas qu'est-ce que j'ai envie de faire ou quel projet j'ai envie d'entreprendre. J'essaye plutôt de me concentrer sur l'envie. Ça me donne plus de clés sur ce à quoi je dois consacrer de l'énergie, quoi.
Comment tu passes la motivation aux autres?
Eh bien,
Déjà, est-ce que ça se passe déjà?
alors oui et non. C'est-à-dire que tu peux pas être motivé à la place des gens, comme tu peux pas changer à la place des gens. Par contre, le seul truc que tu peux essayer de faire, c'est à partir du moment où tu as compris que la motivation découle d'une envie, c'est essayer de leur faire prendre conscience de ce dont ils ont réellement envie. Aujourd'hui, voilà, j'ai pas mal de salariés. J'essaye avant tout de comprendre ce qu'ils recherchent dans le travail. T'as ceux qui considèrent le travail comme un épanouissement intellectuel. T'as ceux qui sont plutôt carriéristes. T'as ceux qui préfèrent faire leurs 35 heures et profiter de leur famille ou d'activités sportives. Bon, j'essaye de cerner ce dont ils ont réellement envie. Et parfois même, ils ne le savent pas vraiment. Et à partir du moment où je cerne ce qu'ils recherchent, j'essaye d'aller dans leur sens. Et
Mais
là,
comment tu fais quand tu as une équipe et que l'entreprise, elle a quand même, donc tu as la barre, tu as un point de mire, elle a un objectif, l'entreprise. C'est très intéressant parce que quand je t'ai posé cette question, tu t'es tout de suite mis dans les souliers de la personne d'en face. C'est-à-dire, tu m'as dit, j'essaye de comprendre ce dont il a envie. Alors que la question que je t'ai posée, c'est oui, comment tu transmets de l'envie? Donc tu te positionnes tout de suite chez l'autre, mais comment on réconcilie toutes les envies pour aller ensemble dans une direction.
ce que je veux dire, c'est que si tu veux passer de la motivation ou de l'envie, il faut d'abord te mettre à la place de celui que tu as en face. Moi, je vais pas passer de l'envie à chaque personne de la même manière. Parce que tu peux, par exemple, il y a des gens pour qui mon dynamisme est plutôt repoussant, tu vois, par exemple. Donc, si j'arrive avec toute mon énergie, je vais lui faire peur et puis il va partir. Donc, ça va pas marcher. Le seul truc qu'on peut faire, nous en tout cas, c'est comme ça qu'on considère l'entreprise. L'entreprise, c'est avant tout un cadre de vie, un cadre d'épanouissement personnel. Ça n'est rien d'autre que ça. L'entreprise, sinon, c'est du vent. C'est rien. Donc, il faut que l'entreprise, elle puisse correspondre aux besoins de chacun et aux envies de chacun. Après, mon rôle, c'est quoi? C'est essayer de concilier ce que l'entreprise a à offrir et ce que les gens veulent pouvoir en tirer. Donc forcément, la motivation que je vais pouvoir faire passer aux gens, elle passe avant tout par ce qu'ils recherchent. Sinon, ça
C'est
passe pas.
ouais, c'est étonnant. Et en même temps, moi qui ai travaillé dans des groupes en coopération, j'ai l'impression que quand il y a pas, alors soit un cadre bien défini, et il y a souvent la recherche d'un leader. On le voit aussi avec les élections avec la France, si on prend au niveau national, cette recherche de celui qui donne le cap.
Oui.
Et là, on le sent pas dans ce que tu dis.
Si, moi, en fait, le cap que je donne, c'est plutôt une philosophie d'entreprise, c'est des valeurs, c'est de dire pourquoi on fait ce qu'on fait, et pas forcément comment on le fait. Donc, je me positionne plutôt comme un leader que comme un chef d'entreprise, parce que j'essaye de donner une direction, une voie. Après, la voix qui est la nôtre ne correspond pas forcément à tout le monde. Donc, j'essaye de rassembler les gens autour de valeurs, mais après, à eux d'y trouver ce qu'ils recherchent. C'est différent.
Mmh. Tu as fait un travail sur le pourquoi ? De pourquoi vous faites entreprise ensemble ?
Oui, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai essayé de réfléchir à quel était le sens de ce que nous on crée. Mais après, les choses se sont faites progressivement. Quand j'ai créé l'entreprise, assez rapidement, on est devenu très structuré. Donc, on a passé la certification ISO 9001 qui est liée à la qualité et à l'organisation. À partir de là, on s'est plutôt concentré à éditer des valeurs. Et ce que j'ai fait, j'ai sorti ce que j'ai appelé les 7 valeurs fondamentales de l'entreprise, en essayant d'expliquer que l'organisation et la structure qui était la nôtre n'est finalement que l'armature d'un... C'est un peu comme un canapé, si tu veux. C'est-à-dire que... voilà, j'aime bien prendre des comparaisons qui parlent. Mais la qualité, la structure, l'ISO 9001, c'est un petit peu la structure d'un canapé. Les ressorts, le métal, le bois. Mais tu ne t'assois pas là-dessus. Toi, tu t'assois sur l'habillage, sur les coussins. Eh bien, les coussins et l'habillage, ce sont les 7 valeurs fondamentales de notre entreprise. Voilà la direction que je veux donner.
Comment tu as identifié ces valeurs ? C'est des valeurs communes, donc ?
C'est des valeurs communes que je pense importantes à partager, qui sont les miennes, et puis qui... Eh bien, aujourd'hui, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que ça découle d'abord de ce que moi, j'ai envie de faire. Et après, les gens qui sont dans l'entreprise, bah, soit ils s'y retrouvent, soit ils s'y retrouvent pas. Mais s'ils s'y retrouvent pas, c'est peut-être qu'ils ont rien à faire chez nous non plus. C'est assez simple.
J'aimerais bien comprendre comment tu as défini quelles étaient tes valeurs.
Ben, j'ai pris le temps de réfléchir du sens que je voulais tout simplement donner à ma vie. Et à partir de là, le travail, c'est au moins 8 à 9 heures par jour pour tout le monde. Ben, ça représente beaucoup de temps, quoi. Si tu rajoutes à ça le temps qu'on dort, finalement, le reste du temps, il t'en reste pas beaucoup. Donc, si tu passes, si c'est pour ne pas s'y retrouver, ça sert à rien. Donc, j'ai édité ces valeurs-là par rapport à ce qui me semble important pour moi et ce qui me semble important pour mon équipe, pour nos clients, pour l'écosystème, en fait, qu'on veut créer autour de notre entreprise. Alors, dans ces 7 valeurs, il y a quoi ? Je crois que la première, c'est se faire plaisir et s'amuser. Mmh. Parce que si c'est pour se faire chier dans la vie de salarié. Mais, et tu vois, la dernière, ça doit être humble. Parce que ça me semble important. Enfin, c'est des choses assez basiques. Hein, mais c'est ce qui nous rassemble.
Et comment ensuite tu en es venu à faire émerger le pourquoi de ton entreprise ? Le sens, en fin de compte, que vous donnez à votre action.
Ben oui, parce que, enfin, comme toute entreprise, notre objectif, c'est augmenter notre chiffre d'affaires et augmenter notre rentabilité, ça va de soi. Mm-hmm. Mais si tu te concentres là-dessus, alors tu te trompes de cible. Et puis, c'est surtout que tu finis par t'intéresser non pas sur le fond de ta société, mais sur les objectifs. Or, nous, on est parti du principe qu'une entreprise, c'est deux choses. C'est l'épanouissement en interne, et c'est la satisfaction en externe. Et le reste n'est que du vent. C'est-à-dire que si moi je veux augmenter mon chiffre d'affaires, il faut que j'ai des employés épanouis, il faut que j'ai des clients satisfaits. Une fois que tu as dit ça, bah, tu essayes de te concentrer sur pourquoi je fais ce que je fais. Parce que si tu te concentres sur le comment, tu ne vas pas aller dans la direction du client et dans la satisfaction des salariés. C'est basique, mais c'est ce qui nous a guidés.
Et tu l'as trouvé facilement, ce pourquoi ?
Eh bien non, parce que comme beaucoup de choses relativement basiques, bah, c'est très compliqué. Toutes les choses simples sont toujours très compliquées à faire émerger. Donc il m'a fallu, je ne sais pas, du temps, des années. Est-ce que c'est lié à tout ce que j'ai pu faire aussi de mon côté, les aventures, les expéditions, je pense que c'est un petit peu de tout ça, quoi. Quand on se retrouve tout seul en pleine mer pendant 2 mois ou 3 mois, ben on a le temps de réfléchir, on prend du recul. Et tout ce qu'on emmagasine comme réflexion isolée ben ressort, à mon avis, au bout de quelques années, quoi.
Fabuleux. Donc, vous voulez trouver le pourquoi de votre entreprise, traverser l'Atlantique en pédalo.
Oui, bah,
Je
entre autres. Mais je ne sais pas si ça marcherait vraiment. Si je faisais un bouquin dans ce genre-là, je ne suis pas sûr que ça cartonnerait, quoi.
Tu crois?
Traverser l'Atlantique pour trouver des réponses à votre entreprise. Ça serait un joli titre de livre.
Tu dis que pour atteindre ces objectifs que tu t'es fixés, qui étaient des objectifs assez fous, tu t'es quand même fait violence. La vie, ce qui m'intéresse, c'est en effet l'intensité, mais c'est aussi le plaisir et la fluidité. Donc, je trouve ça étonnant. Est-ce qu'il faut se faire violence?
Bah, je pense que la solution de facilité n'est jamais la plus simple ni la plus intéressante. C'est tout. C'est-à-dire que plus tu as des objectifs ambitieux ou passionnants ou difficiles, plus ça demande quand même de l'énergie. Mais à l'inverse, tu peux aussi ne rien faire et je ne suis pas sûr que le résultat sera meilleur, quoi. Tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que celui qui fait rien, il ne se fait pas violence, mais je suis pas sûr qu'il s'extasie de ce qu'il a fait, quoi. En tout cas, si tu veux atteindre des objectifs, si tu as des objectifs modestes, eh ben, tu auras besoin d'un niveau d'énergie peut-être plus faible, mais si tu as des objectifs élevés, ben, ça demande forcément un peu plus d'énergie, quoi.
Ouais,
Et
mais la
quand je...
question est pourquoi se poser des objectifs aussi élevés? Qu'est-ce que t'en as retiré? Ok, tu parles d'intensité, mais tu pourrais avoir choisi de faire le tour de France à vélo. Ou... Là, tu t'es vraiment fixé des objectifs extrêmement hauts.
C'est
Et du coup,
relatif.
ah bah, excuse-moi, mais c'est
Mais
un...
ce que je veux dire, c'est que des objectifs élevés, ça dépend pour qui. C'est-à-dire que chacun a son propre référentiel. Et tu as des gens qui peuvent imaginer des objectifs élevés pour eux et qui ne soient pas élevés pour toi. La question, elle est pas du niveau. Elle est de savoir quelle énergie je mets dans ce que je veux faire. Que les objectifs soient élevés pour toi, c'est différent. Ce que je veux dire, c'est que il y a plein de gens qui ont des objectifs qui peuvent paraître élevés pour eux et pas forcément pour d'autres. Par exemple, chercher un CDI, ça peut être un objectif élevé pour certains, tu vois. Alors que toi, ça peut te paraître banal. Eh bien, si c'est ambitieux pour eux, mais si c'est ce qu'ils veulent, alors faut y consacrer de l'énergie. C'est ça qui compte. Ça n'est pas la dimension ou le niveau de l'objectif qui compte. L'objectif, c'est d'atteindre ce qu'on a envie de faire.
Ouais, c'est ça, c'est là aussi où je vois où mon esprit se bloque, c'est que j'ai pas complètement compris pourquoi ou qu'est-ce que tu as retiré de si fort à faire quelque chose d'aussi fou. Mais je peux le comprendre, mais en fait, c'est comme si, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est-à-dire qu'on peut toujours monter plus haut, on peut toujours se fixer des objectifs extrêmement, extrêmement hauts. Et tant que, imaginons, moi je suis dans le fameux canapé là, comment je peux visualiser un objectif qui moi me paraît fou? Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Je me dis zut, ça se trouve, je devrais me fixer des objectifs fous, mais comme toi, j'ai pas. Je me dis pourquoi j'irais me faire violence et pourquoi j'irais faire des choses aussi folles si j'en perçois pas complètement ce que je vais en tirer.
Oui, mais t'es pas obligé d'avoir des objectifs qui sont systématiquement soit dangereux, soit fous. Moi, par exemple, aujourd'hui, un de mes objectifs, mais qui me semble être un objectif difficile et ambitieux, c'est essayer de faire passer les valeurs qui sont les miennes au sein de mon entreprise. C'est faire en sorte d'accompagner mes salariés pour qu'ils soient épanouis dans leur travail. Et bah, tu vois, ça, bah, c'est un objectif qui me paraît extrêmement difficile et extrêmement ambitieux.
Là, je me dis, t'as pas dans la tête un petit objectif d'aller sur Mars ou non, t'as plus rien de sportif
Si, si,
extrême quelque
si.
part. Oui,
Oh que
ça,
si.
mais ouais, je me dis. Et oui, et j'ai entendu, d'ailleurs, je sais que tu envisageais de faire le Vendée Globe.
Oui, ça reste d'actualité, oui, j'aimerais bien.
Tu y seras là cette année parce que moi j'y vais, j'interviens au Vendée Globe.
Bah, j'y serai en tant que touriste cette
Ah mais
année,
c'est super! On va se croiser
mais
là-bas.
ah bah ça sera avec plaisir. Non, mais par contre, j'espère être sur la ligne de départ d'ici 4 ans.
Ah, c'est incroyable ça.
Mais j'aimerais bien y travailler. Mais tu vois, rien que se dire ça, bah c'est pas forcément facile parce que c'est un objectif qui est ambitieux. C'est
Puis t'habites Rennes, hein, t'es pas sur la côte.
oui, en plus, ouais, c'est sûr. Et puis j'ai pas de bateau.
T'as pas
Donc
gardé ton pédalo? Tu lui rajoutes une voile.
ouais, je peux essayer de réfléchir à ça. Mais et puis déjà pouvoir se le dire, c'est pas évident, mais réussir à le faire va être encore plus compliqué. Mais voilà, j'essaye d'y travailler, j'essaie de m'y accrocher.
Ah là là, tu resteras une énigme, mais ça, en fait, ça m'inspire parce que je me dis, ouais, j'ai envie de mettre des objectifs ambitieux comme les tiens. Et il y a une partie de moi qui fait, mais Johanna, mais la vie est belle, mais comme je veux la coule douce ici, que tout va bien, que qu'est-ce que tu vas aller t'embêter à avoir des ampoules aux pieds, mais j'ai envie, en fait, ça me titille là ton histoire. J'ai très très envie de me faire un grand défi physique. Je te propose qu'on passe au questionnaire,
Ouais.
qui est donc commun à toutes les interviews, et je me lance avec la première question si tu es prêt.
Je t'écoute.
Ok. Alors la première question c'est quelle est la meilleure erreur que tu aies faite dans ta carrière et surtout qu'est-ce que tu en as appris?
La meilleure erreur, c'est déjà assez contradictoire.
Oui, alors j'ai changé le terme puisque lors d'une interview, quelqu'un a utilisé ce terme que j'ai trouvé très à propos,
Ouais, c'est pas mal.
sachant que là, on rejoint un peu à la culture américaine qui
Oui.
valorise les erreurs, et donc c'est une façon de se dire, voilà, le mot erreur peut être gênant. Qu'est-ce que tu aurais pu vivre comme une erreur ou un échec, mais qui t'a appris, qu'est-ce que t'en as fait, quoi?
Eh bien, moi, alors, les plus grosses erreurs que j'ai pu avoir, c'est. Enfin, les plus grosses, c'est celles qui ont eu le plus de conséquences, c'est l'excès de confiance. J'ai tendance à faire très facilement confiance et beaucoup trop. Plus d'une fois, je me suis fait avoir.
Ah oui, donc envers les autres, avec d'autres personnes.
Oui.
D'accord, parce que je pensais, ça peut être un excès de confiance de se dire qu'on va faire le tour du monde en pédalo, quoi. Mais non, c'est pas du tout ça.
Bah non, alors non, parce que finalement, je pense que petit à petit, j'ai appris un peu plus à cerner mes propres limites,
D'accord.
donc moins de problèmes là-dessus. Non, plus peut-être des excès de confiance avec d'autres, et je dis c'est peut-être la meilleure erreur parce que c'est celle qui a pu engendrer le plus de déceptions ou le plus d'échecs. Et c'est surtout sur celle-là où j'ai beaucoup plus travaillé ensuite. Alors, ce que je fais aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de faire confiance aux gens, loin de là. Par contre, je me suis équipé d'un certain nombre de procédures, de points de contrôle, des manières de pouvoir finalement observer ce qui se passe et pallier à d'éventuelles défaillances sur cette confiance-là. J'ai plutôt travaillé toute la partie technique autour pour bien contrôler cette partie-là et surtout ne pas baisser le niveau de confiance que je pouvais donner parce que ça a aussi été un
Ouais, tu aurais
avantage et
pu
une
te
force.
renfermer, ouais.
Exactement. Et ce que je veux dire, c'est que l'excès de confiance m'a aussi permis de réussir pas mal de choses. Mais disons que les plus grosses claques, elles sont venues de ça.
D'accord. Alors, deuxième question. Quelle technique ou outil t'a le plus fait avancer personnellement ou professionnellement?
Quelle technique? C'est surtout. Moi, je passe beaucoup de temps à analyser et décortiquer l'ensemble des erreurs ou des échecs qu'on peut rencontrer. Je passe beaucoup de temps. En fait, je me détache des conséquences des erreurs. Et par contre, je prends beaucoup de temps à les analyser, à les décortiquer et à essayer de voir finalement si j'avais pris d'autres options, quelles auraient été les autres conséquences. Et petit à petit, ça m'aide à mieux anticiper les choses.
Donc en fait, tu utilises une sorte de visualisation, on pourrait dire,
Oui.
des différents scénarios possibles, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que je fais comment on appelle ça, des logigrammes. C'est-à-dire que j'essaye de revenir en arrière. Je fais une espèce de rétro, enfin un retour sur ce qui s'est passé. Et puis, j'essaie de comprendre pourquoi j'en suis arrivé à telle erreur, quoi. Ça me permet de mieux appréhender la suite. Et surtout, ça me permet par anticipation de savoir ce qui devrait se découler d'un certain nombre d'actions.
D'accord.
Voilà.
Je suis obsédée par ton pédalo, donc je voulais dire que tu as un rétropédalage, tu fais un rétropédalage pour.
Exactement, c'est ça.
Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Bah, clairement, c'est l'écoute. Je pense que tout passe par là. Mais l'écoute, la vraie, pas j'écoute que d'une oreille. En fait, un bon manager, c'est quelqu'un qui va pas forcément, qui va pas diriger, mais plutôt aiguiller. Ce que je disais tout à l'heure, c'est si on veut que les salariés soient performants, il faut d'abord qu'ils soient épanouis. Et pour ça, il faut pouvoir leur mettre à disposition ce dont ils ont besoin. Pour savoir ce dont ils ont besoin, bah, faut pouvoir écouter. Tout passe par là. En fait, un manager, il veut quoi? Il veut que son équipe, elle marche. Tu vois? Donc ça, quand tu dis ça, tu es concentré sur le besoin du manager. Or, le meilleur moyen d'atteindre ton objectif, c'est aider les autres à atteindre leur objectif. Tu vois? Et pour ça, il faut pouvoir écouter.
Je passe à la quatrième question. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué que tu pourrais nous conseiller?
Alors, j'ai lu pas mal de livres, mais dernièrement, il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé parce que c'est avant tout un travail scientifique et non un récit. Le livre s'appelle De la performance à l'excellence. Et en fait, c'est un chercheur américain qui a étudié et analysé plusieurs centaines d'entreprises pour essayer de comprendre ce qui a fait la différence entre une entreprise performante et une entreprise excellente.
Oui, il a peut-être 10 ans maintenant ce livre, non? Quelque chose comme... Parce que
Ah oui, facile,
je me
ouais.
rappelle l'avoir écouté il y a très longtemps, c'est Good to Great ou quelque
Oui,
chose
c'est
comme ça.
ça, exact.
Excellent bouquin. Quoi,
Ouais.
moi j'ai beaucoup aimé aussi.
Et pourquoi j'aime beaucoup ce livre? Parce que tu as souvent des très bons livres qui sont des récits de personnes qui racontent leur vie, des biographies, des autobiographies ou des gens qui te déroulent des méthodes. Mais ce livre est un travail de recherche. Donc
Ouais.
il a un niveau d'objectivité que tu retrouves nulle part.
C'est vrai, c'est vrai.
Et ça, pour ça, je trouve qu'il est très bien.
Je renforce ce conseil de lecture, je suis complètement d'accord.
Bah, c'est bien.
Et on va finir avec une citation qui t'inspire et qui pourrait nous aussi nous inspirer.
Alors, une citation que je pourrais te donner, c'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Ah oui.
» Je crois que c'est Mandela.
Oui, on la voit passer avec son portrait sur Internet.
Ah oui,
Ouais.
bah, je l'ai vu effectivement de temps en temps passer sur Internet.
C'est vrai qu'elle est excellente.
Bah oui, j'aime bien
Et
parce
elle
que
rejoint cette fameuse question de quelle est ta meilleure erreur?
c'est ça. C'est-à-dire que, tu vois, je trouve finalement que à petites erreurs, petits progrès, à grosses erreurs, gros progrès. À partir du moment où tu arrives quand même à prendre du recul sur ce qui s'est passé, à te remettre en question. Et puis voilà, prendre la chose assez simplement en disant, bon, bah, un coup j'ai gagné, un coup j'ai perdu, mais quand je perds, bah, j'ai appris quelque chose, donc j'ai gagné. Et voilà, j'aime bien cette citation pour ça.
Eh ben, on va clôturer là-dessus. Ou j'ai envie de dire où est-ce qu'on peut te retrouver, mais si tu as un compte Twitter, Jean-Gabriel?
Oui, j'ai un compte Twitter, j'ai un compte Facebook. Twitter, c'est quoi? Je crois que ça doit être Twitter slash Jean-Gabriel
Je le
Chelala,
mettrai de toute façon dans.
où je gab chez Lala, je sais plus comment c'est écrit. Pareil pour Facebook, facebook.com, Jean-Gabriel chez Lala.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience.
Eh bien, merci de m'avoir contacté.
Est-ce que vous aussi, vous avez envie de vous fixer un objectif un peu fou? Juste après cet entretien, j'ai appelé mon ami Benoît et nous avons rendez-vous en novembre pour faire le tour du golfe du Morbihan à pied avec une tente. Ça va être épique, comme on dit. Merci beaucoup Jean-Gabriel et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Très bonne semaine à tous.